Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. En direct jusqu'à 20h55. Très heureuse de vous retrouver et de retrouver toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonjour. Bonsoir, Elisabeth.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Si je vous dis Anna Aguet Portery ou alors Charlotte Marchandise, vous voyez qui c'est ?
Oui.
Oui, vous voyez. Eh bien, écoutez, moi, je ne connaissais pas avant cet après-midi. Elles sont candidates à la présidentielle et elles ont été sélectionnées par la primaire populaire.
Mohamed, votre story du jour.
C'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle, mais qui a dénoncé Anne Frank à la SS en 1944. Un retraité du FBI a sans doute trouvé la réponse.
Il a enquêté pendant de longues années. Mathieu, votre 5 sur 5 ce soir.
Je vais reparler de Jean-Michel Blanquer. Qui imagine le général de Gaulle annoncer un protocole sanitaire depuis Ibiza? Cette polémique qui a fait la journée, on a appris ça hier soir, ce sont des informations de Mediapart. Le ministre était à Ibiza au moment où il annonçait le protocole sanitaire. On va en reparler.
Patrick, votre édito ce soir.
Un constat et un bilan. Le constat, c'est que l'épidémie de Covid amorce un commencement de début de reflux. Et le bilan, c'est que le pass sanitaire a sauvé 4000 vies.
Autant de sujets que l'on soumet ce soir à notre invité, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui publie le troisième volet de ses souvenirs au gouvernement. Il est rare à la télévision. Il a choisi C'est à vous pour s'exprimer ce soir. Bonsoir et merci.
Bonsoir.
Monsieur le Premier ministre, Pierre, votre œil ce soir.
Tout à l'heure, à 21h05, France 2 propose un formidable documentaire, Noir en France. Nous en verrons quelques extraits, mais personne ne devrait manquer ce travail magnifique et passionnant.
Travail magnifique auquel participe Soprano, le rappeur Absolument. Préféré des Français. Il figure dans le top 5 des personnalités préférées des Français. Il est notre invité du dîner, Samuel Le Bihan aussi, qui fait un grand retour avec son personnage Hugo la Tendresse, ce flic qui a décidé de quitter Marseille pour s'isoler à la montagne, mais qui continue ses enquêtes. Ce sont nos invités du dîner, un dîner mexicain, comme hier soir, préparé par notre chef du soir, Enrique Casarubias, chef du restaurant Oxté à Paris. Bonsoir chef, bonsoir. Ça sent fort, ça sent le radis, mais c'est bon.
Exactement, c'est très bon. Les radis, on va faire une dorade marinée façon Acapulco, accompagnée des radis navets.
Voilà, soit Ibiza, soit Acapulco, choisissez votre destination ce soir. Merci,
merci
chef, à tout à l'heure. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Un léger vent d'optimisme flotte sur la crise du Covid. Est-ce que ça suffit pour dire que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu ?
Non, les modélisateurs de l'Institut Pasteur ne se sont pas trompés. Ils avaient prévu un pic à la mi-janvier. Nous y sommes avec un scénario optimiste et probable, disait Arnaud Fontanet, de 2500 hospitalisations par jour. Nous sommes à plus de 2300. Alors l'accalmie, on la lit dans les entrées quotidiennes en soins critiques. On le voit sur cette courbe. Elles sont moins nombreuses depuis quelques jours. Le pic est passé à Paris et à Marseille, où la PHM vient de décider la réouverture des blocs opératoires pour assurer 85% de l'activité chirurgicale habituelle. Mais ce n'est pas encore le reflux partout. Les hôpitaux de Lyon n'ont plus que quelques lits de réanimation disponibles et la pression demeure très forte. Plus de 25 000 malades sont hospitalisés dans tout le pays pour Covid et près de 4 000 en soins critique, c'est considérable et conforme aux alertes de Pasteur. Enfin, malgré la moindre virulence d'Omicron, deux chiffres qui rappellent la gravité de la crise. Sur ces dernières 24 heures, près de 3000 patients ont été admis à l'hôpital et près de 300 y sont morts du Covid. Comme le dit le patron de la PHP, Martin Hirsch, ce matin en Libération, on est sorti des 40e rugissants, mais la houle est encore très forte. En tout cas, les cris de victoire des médecins dits rassuristes qui tirent argument de ce début de reflux pour affirmer que la panique n'était pas justifiée. Ces cris sont indécents pour les soignants et insultants pour les victimes et les familles endeuillées.
Par ailleurs, une étude du Conseil d'analyse économique affirme que le pass sanitaire a sauvé 4000 vies en France l'an dernier.
Oui, pour savoir quel a été l'impact de ce pass sur la vaccination, la santé et l'économie dans trois pays qui l'ont mis en place à peu près au même moment, la France, l'Allemagne et l'Italie, ces économistes et mathématiciens se sont demandé ce qui se serait passé sans ce pass.
Mais comment le savoir ?
Alors en prenant pour modèle des pays qui n'ont pas adopté ce pass, mais qui avaient une dynamique de vaccination comparable, en l'occurrence la Belgique et la République tchèque. Le bilan, le voici, le pass a fait progresser le taux de vaccination de 13 points en France, en plus de ce qui était attendu, 10 points en Italie, 6 points en Allemagne. Vous voyez sur la courbe bleue ce qui s'est réellement passé avec le pass et sur la courbe rouge ce qui se serait passé sans le pass. Les chercheurs expliquent que ces différences par le fait que c'est en France que les restrictions ont été les plus fortes et les plus centralisées. En Allemagne, c'était l'affaire des régions, des Länder. Un regain de vaccination qui a donc sauvé des vies, 4000 entre la mi-juillet et la fin décembre, 24 par jour, estimation basse, alors que le Covid a tué 12 000 personnes sur la même période. Enfin, comme le pass a permis aux vaccinés d'avoir une vie quasi normale, travail, transport et loisirs, les auteurs de l'étude estiment qu'il a réduit les pertes de PIB de 0,6 points, soit 6 milliards d'euros.
Le pass vaccinal qui va entrer en vigueur dans quelques jours n'aura pas le même effet ?
Non, l'effet d'incitation est passé. Sur les 5 millions de non-vaccinés, il n'y en a plus que 30 000 en moyenne chaque jour qui acceptent une première dose, et comme le vaccin ne réduit qu'un peu la circulation du virus, le pass vaccinal n'aura pour effet que de compliquer la vie des non-vaccinés, les empêcher de se rendre au cinéma, au café, de prendre le train, et donc, d'une certaine façon, de les protéger malgré eux, en leur évitant de se contaminer dans ces lieux publics.
Le sens de notre nation, c'est le titre de votre ouvrage qui paraît demain chez Stock, le troisième et dernier volet de vos souvenirs au gouvernement, l'occasion d'interroger la France à 82 jours du premier tour de l'élection présidentielle. On y revient, mais un mot sur le pass sanitaire. Vous le soutenez comme vous soutenez le pass vaccinal sans aucune réserve ?
Non, je soutiens depuis le début de cette crise sanitaire l'action du gouvernement. D'abord parce que j'ai été moi-même au gouvernement et je sais à quel point ces crises sont difficiles à gérer, à quel point cette crise en particulier l'a été pour des raisons qui tiennent au fait que le gouvernement a dû agir dans un contexte où il ne maîtrisait pas, face à une crise inédite, la totalité des informations scientifiques qui sont désormais connues de nous et qu'il a dû agir en s'adaptant en permanence, qu'il l'a fait avec le souci de la protection des Français, qu'il a pris globalement les décisions qui devaient l'être. Et quoi qu'on pense du gouvernement, qu'on soit dans la majorité, dans l'opposition, quand il y a des sujets de cette nature qui touchent à l'essentiel, on doit être capable de s'ériger au-dessus des contingences politiques pour reconnaître ce qui doit l'être. Et je le fais sans me forcer.
Un verbe symbolise cette bataille du pass vaccinal. Un verbe d'abord utilisé par le président de la République et qu'utilisent aussi maintenant ouvertement certains médecins, comme l'urgentiste Mathias Wargon. C'était dimanche sur France 2.
Des gens franchement anti-vax, si vous racontent des conneries sur le vaccin, la 5G, tout ça, c'est des conneries. Et on n'en a pas tant que ça, on a plutôt des gens qui sont pas bien informés et sur lesquels les anti-vax, les médecins, les politiques, finalement, ils font peur avec le vaccin et les gens ne se vaccinent pas.
Il faut les convaincre, toujours de la pédagogie pour vous.
Ouais, il faut de la pédagogie, mais ça dépend. Moi, j'emmerde, puisqu'on parle du président, moi, j'emmerde ceux qui mentent. Ceux qu'on voit à la télé, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, ceux qui sont actifs, ceux-là, ouais, je les emmerde. Mais des gens comme ça, non, c'est nos patients. Parce que mes patients, c'est des victimes de ces gens-là.
Emmerder, y compris jusqu'au bout, les anti-vaccins, c'est un langage approprié pour parler aux citoyens, Bernard Cazeneuve ?
Moi, je n'aurais pas fait. Je pense que...
Quelle surprise !
je n'aurais pas fait pour la raison que je vais expliquer en quelques mots. Je pense que... ce qui compte lorsqu'on est président de la République, c'est de trouver les mots pour convaincre ceux qu'on n'a pas réussi à séduire, bon, ou ceux qu'on n'a pas réussi à convaincre. Et ce qui compte, c'est le résultat, c'est de finalement parvenir à ramener à la juste position, à la position raisonnable, ceux qui sont réfractaires. Et je ne pense pas que la mise sous tension de ceux qui sont réfractaires soit la meilleure manière pour atteindre le but de les convaincre. Mais ça n'est que mon opinion. Je peux me tromper, mais souvent arrivé de me tromper.
Mais ça participe de l'abaissement du débat public que vous dénoncez dans votre livre. L'outrance, le manque de hauteur, on disrupte, on s'affranchit, on transgresse volontiers, mais on est moins sage.
Et moi, je pense que ça ne procède pas, en tous les cas, d'un rehaussement de la parole publique, ni d'une élévation du débat que de s'exprimer ainsi. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. Et je comprends très bien qu'un président de la République puisse être énervé de voir, dans un contexte particulièrement difficile, qui le mobilise et le sollicite chaque jour, qu'il y a des citoyens réfractaires à entendre ce qu'il a à dire, mais c'est ainsi la démocratie. On ne parvient pas tous les jours à faire l'unanimité, y compris sur les sujets les plus graves. Et quand on n'y parvient pas, Il vaut mieux trouver les mots qui témoignent du respect que l'on a pour l'ensemble de ses concitoyens, y compris ceux qui ne pensent pas comme on pense soi-même, pour parvenir à les convaincre. Je ne suis pas, mais peut-être est-ce que je suis extraordinairement démodé, c'est possible. Je ne trouve pas qu'il y ait dans la convocation des mots qui heurtent, qui font du bruit, qui contribuent au vacarme et qui permettent d'être convaincu qu'on est dans la disruption, une forme de langage politique qui soit de nature à confronter, à approfondir la démocratie.
Oui, sauf que dans le cas d'Espace, il ne s'agit pas de conviction, il s'agit de contrainte. Et c'est la question qui continue de nous agiter à propos de cette épidémie sur la liberté des... sur la limitation des libertés individuelles.
J'ai peur que l'utilisation du mot « emmerder » poursuive un autre objectif que celui de contrainte, c'est-à-dire qu'il ait pu poursuivre l'objectif de cristalliser autour de soi un certain nombre de Français qui sont agacés par le comportement de ceux qui peuvent mettre en danger la vie d'autrui en refusant de se vacciner, qu'il y ait dans cette affaire une part de calcul. Et le calcul sur les sujets importants, plus la convocation des mots qui ne l'ont pas à l'être, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Et s'il s'agit de contraindre, la stratégie du gouvernement, encore une fois que je soutiens, m'apparaît être au long cours la bonne stratégie, c'est-à-dire la pédagogie, la conviction, les bonnes mesures. Et encore une fois, je dis ce que je viens de dire sur le mot utilisé avec d'autant plus de liberté que chacun aura bien compris que sur des sujets de cette nature, je ne suis pas enclin... sous prétexte que je suis dans l'opposition, à convoquer à mon tour toutes les outrances pour m'opposer à ce que le gouvernement propose lorsque ce qu'il propose est justifié.
Dans le sens de notre nation, vous revenez sur les mois qui ont précédé la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Vous avez compris, avant d'autres, qu'il s'y préparait, tant il cherchait, écrivez-vous, à se distinguer sur presque tous les sujets avec, je vous cite, pour objectif d'empêcher une nouvelle candidature de François Hollande. Vous le comprenez ? Très vite, mais vous n'en parlez pas au président. Vous le regrettez aujourd'hui ?
J'en parle à l'intéressé. C'est-à-dire que j'ai dit à Emmanuel Macron assez vite ce que je pensais de cela. Ça contribuait d'ailleurs à instaurer une distance entre lui et moi.
Et vous lui dites quoi ?
Je lui dis que je pense qu'il va se présenter contre le président de la République, que compte tenu de ce qu'est ma conception de l'État, je ne saurais en aucun cas l'accompagner, et de la loyauté. Mais je n'en parle pas au président de la République parce que d'une part, je peux me tromper. Et si je me trompe en parlant au président de la République, je vais instaurer entre le président de la République et son ministre de l'Économie et des Finances, entre lesquels existait une relation de confiance et je crois même d'affection, des dissonances, et je n'y tiens pas. Et ensuite, parce que le ministre de l'Intérieur n'est pas là pour jouer les petits rapporteurs, le ministre de l'Intérieur est là pour s'occuper de la sécurité des Français et pas pour engendrer dans l'appareil d'État des tensions et des zizanies. Et ensuite, parce que, je le dis dans le livre et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises concernant le président Hollande, c'est un homme d'une grande intelligence et d'une grande intuition. Par conséquent, j'imagine qu'il sent parfaitement lui-même ce qu'il n'a pas besoin d'entendre de ma voix.
Il faut à la nation un gouvernement qui ne soit pas composé que de collaborateurs serviles, fébriles, à l'idée de tout perdre en prenant le risque d'offenser le prince. Ni le général de Gaulle ni François Mitterrand ne redoutaient les esprits forts et les caractères francs à leur côté. Emmanuel Macron est un prince entouré de collaborateurs serviles et fébriles.
Je pense qu'il y a un phénomène qui s'est développé depuis le quinquennat et qui a engendré une espèce de fébrilité présidentielle pour des raisons qui tiennent au fait que le temps du mandat s'est raccourci et que la position arbitrale du président de la République s'est altérée. Il y a une tendance à la verticalisation du pouvoir et à l'atrophie des institutions de la Ve République pour des raisons, à mon sens, qui tiennent au quinquennat et au rythme que le quinquennat impose. Et Emmanuel Macron n'est pas celui qui a théorisé le fait que les ministres et les premiers ministres étaient des collaborateurs. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait et qui fut le premier d'ailleurs à être confronté au rythme et à la temporalité du quinquennat. Et ce n'est pas la République que je trouve la plus riche, la plus dense et la plus intéressante à vivre. La République intéressante à vivre, notamment au gouvernement, est celle dans laquelle le président de la République est garant de l'essentiel, à ce recul, cette distance et cette position arbitrale. Et c'est précisément parce qu'il a cette hauteur, cette puissance, ce surplomb, qu'il peut s'autoriser d'avoir autour de lui des personnalités fortes dont il n'a rien à redouter. Le général de Gaulle avait autour de lui ce qu'on appelait les barons du gaullisme, ce n'étaient pas des personnalités faciles. Et François Mitterrand, souvenez-vous, c'est, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez la mémoire des choses, parce que vous avez vécu ces moments, n'est-ce pas Pierre, vous vous souvenez de Pierre Joxe, de Paul Quillès, de Pierre Bérégovoy, de Laurent Fabius, qui n'étaient pas des personnalités falottes.
Vous décidez de prendre de la distance en 2017 avec le fracas de l'actualité, de ne pas la commenter à tout bout de champ. Mais certains de vos amis, et vous mettez « amis » entre guillemets, se sont empressés de dire que vous aviez quitté la politique. Or, ce n'était pas le cas. Vous vous prépariez une éventuelle candidature. Vous étiez disponible, Bernard Cazeneuve.
Lorsque j'ai vu la tournure que prenaient les choses au plan national, c'est-à-dire j'ai senti qu'il y avait un risque d'abaissement du débat politique, l'outrance, la confrontation sur tous les sujets, sur toutes les questions finissait par s'imposer, que la gauche était à la peine, je me suis dit que je pouvais peut-être être utile. Mais j'ai très vite compris que la ligne qui était la mienne n'était pas celle qui recevait l'assentiment du plus grand nombre de ceux qui, dans les appareils, était en charge de faire évoluer les organisations politiques.
C'est-à-dire au Parti Socialiste.
Notamment, mais pas seulement. Je n'avais pas non plus beaucoup d'amis dans les autres organisations. Moi, je considérais qu'il fallait être intransigeant sur les questions républicaines, que l'unité et l'indivisibilité de la République n'étaient pas négociables et que la politique, quand on était à gauche, ne pouvait pas consister à courir après des segments de la société comme on court après autant de clientèle et que nous devions, nous, pour des raisons qui tenaient au risque de confrontation dans la société française, être les garants de ce qu'était l'héritage républicain. Je pensais que la social-démocratie appelait de la pondération, de la modération, de la sagesse, du sérieux, et que nous n'étions pas nécessairement obligés sur toutes les questions de nous positionner aux marges en prenant les postures les plus radicales. Et je pensais enfin que l'urgence climatique dictait sur les questions environnementales de chercher les positions à la fois les plus efficaces et les plus praticables pour essayer de faire en sorte que justice sociale et protection et sauvetage de la planète ne s'opposent pas. Mais je n'ai pas recueilli sur cette ligne beaucoup de soutien. On m'a très vite signifié qu'il fallait rompre avec ceux qui avaient exercé des responsabilités dans le quinquennat précédent et dans tous les autres quinquennats ayant précédé le quinquennat précédent, que le temps était venu d'une nouvelle génération qui savait y faire, et n'ayant pas d'addiction à la politique, n'ayant pas d'obsession du pouvoir, ne considérant pas que rien ne pouvait se faire sans que je sois au milieu de la piste de danse, j'ai avec sagesse considéré que les messages qui m'étaient envoyés étaient suffisamment clairs pour que je laisse ceux qui aspiraient à tenir le manche de le faire, sans pour autant être habité par une quelconque amertume, puisque vous avez remarqué que quand on me demande un service, je suis là pour le rendre, car je reste malgré cela fidèle à ma famille politique, parce que, vous le savez bien, je suis socialiste.
Et vous soutenez Anne Hidalgo.
Mais quand on lit vos dernières pages, on a l'impression que vous n'êtes pas seulement un déçu de la gauche, mais plus généralement un déçu de la politique, comme elle se fait aujourd'hui, Bernard Cazeneuve.
Je suis triste de voir la manière dont les choses ont évolué. Je suis triste de voir, dans un pays qui est menacé de confrontation. J'ai été ministre de l'Intérieur au moment de la crise terroriste. Donc j'ai vu ce que pouvaient produire des paroles qui, plutôt que d'apaiser, cherchent systématiquement à mettre de l'huile sur le feu. J'ai vu aussi la stratégie de ceux qui font de la mise sous tension du pays et de la recherche de la confrontation à l'intérieur du pays, le moteur de leur propre démarche politique. J'ai vu ce que la sacralisation de la radicalité sur tout sujet et en toute matière pouvait occasionner d'incompréhension, d'incapacité de débattre, de dialoguer et de respecter la position de l'autre si elle est différente. Donc je vous confirme que tout ça m'a profondément attristé. Et d'ailleurs, si j'apparais de temps à autre, pas trop souvent, pour n'irriter personne et ne pas lasser l'auditoire, et pour dire ce que je crois juste, c'est précisément parce que ceux qui ont le goût de la nuance, le sens de la pondération et la volonté de faire en sorte que le respect s'instaure de nouveau dans le débat public, doivent pouvoir de temps en temps, sans trop insister, dire ce à quoi ils croient. Ce que je fais ce soir.
Vous avez choisi de ne pas rentrer sur la piste de danse qui est assez comble. Des candidats à gauche, il n'en manque pas. Dernière en date, Christiane Taubira, invitée ce matin de France Inter.
historiquement, on est persuadé que l'union de la gauche est nécessaire. Pour ma part, j'ai essayé. J'ai pris quelques initiatives, j'ai appelé des personnes. Cela n'aboutit à rien. J'ai constaté le spectacle de personnes qui se crispaient, chacun sur son Aventin, persuadé que l'union est indispensable, mais que l'union ne se conçoit que derrière soi. Mais j'ai pris ma responsabilité, et ma responsabilité, c'est quand même de prendre le maximum de risques.
Christiane Taubira aurait-elle dû s'abstenir comme vous ?
Je pense que si la préoccupation d'un certain nombre d'acteurs, et non des moindres de la gauche, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de divisions en multipliant les candidatures. Il faut éviter de multiplier les candidatures pour éviter qu'il y ait davantage de divisions. Je pense que c'est un raisonnement assez simple auquel les téléspectateurs devraient pouvoir accéder aisément. Et toute cette situation à gauche me fait penser à l'administration lorsqu'elle invente le guichet unique. J'ai vu beaucoup ça dans l'administration. Lorsque l'administration n'a plus d'imagination, généralement, elle vous sort le guichet unique. Et quand l'administration a inventé le guichet unique, vous avez autant de guichets qu'avant l'invention du guichet unique plus un, le guichet unique. Eh bien, nous en sommes là.
Certains électeurs, en tout cas, auraient bien aimé un guichet unique. Ils ne l'ont pas, mais ils ont cru trouver la solution avec la primaire populaire. Alors, le principe, ce sont donc des citoyens qui l'organisent et qui choisissent les candidats qui veulent soumettre au vote de cette primaire, que les candidats le veuillent ou non. Et parmi ceux qui ne veulent pas, il y a donc les principaux candidats de gauche, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, donc qui ne souhaitent pas participer à cette primaire populaire. Et puis il y a ceux qui le veulent, donc Christiane Taubira, on l'a vu, qui s'est engagé à se soumettre au résultat de cette primaire. Mais il y a aussi le député européen Pierre Larrouturou et deux inconnus du grand public, Anna Aguet-Portery et Charlotte Marchandise.
Bonjour, je m'appelle Anna Aguet-Portery, j'ai 23 ans et je me présente à l'élection présidentielle.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis candidate à l'élection présidentielle parce qu'il y a quelques mois, vous m'avez plébiscité sur la plateforme de la primaire populaire pour faire gagner la démocratie.
Je suis convaincue qu'il est possible de faire de la politique autrement.
Ça veut dire qu'on va peut-être avoir des débats un peu houleux en famille ou avec les amis. Pour ça, une solution, le démocratol, qui lutte efficacement contre l'impuissance électorale.
Voilà, alors elles ont au moins l'humour avec elles. Le vote doit se dérouler du 27 au 30 janvier. Vous êtes inscrit ?
Non.
Vous n'allez pas voter à cette primaire populaire ?
Non, mais je vais vous dire pourquoi je ne suis pas inscrit à cette primaire populaire. D'abord, je comprends très bien qu'un certain nombre de citoyens soient soucieux de voir la gauche se rassembler et prennent des initiatives pour ce faire. Mais j'ai deux commentaires à faire par rapport à ce petit reportage et au débat que vous suscitez en m'interrogeant. Premier commentaire, c'est que peut-être est-ce là encore une vision trop classique de ce qu'est la démocratie. Pour moi, la démocratie, ce sont des organisations politiques à l'intérieur desquelles on débat, et on débat longtemps avant que les échéances électorales n'aient lieu, en vue que ces forces politiques, ces organisations politiques, soient suffisamment puissantes, suffisamment crédibles, suffisamment reconnues comme responsables, pour pouvoir agréger autour d'elle le maximum d'électeurs. Et d'ailleurs, ces formations politiques ont intérêt, le plus longtemps possible avant l'échéance, à désigner leurs candidats après avoir fait le point sur ce qu'elles ont à dire au pays. Parce que vous pouvez avoir des candidats qui se déclarent tous les jours pour pouvoir regagner la piste de danse. Si ces candidats n'ont rien à dire au pays, même si vous faites une primaire, la capacité d'agrégation autour de ces candidats après que la primaire a eu lieu d'électeurs demeure tout de même assez faible. Ce qui fait la force et la capacité d'union sont des organisations suffisamment crédibles parce qu'elles ont un message puissant et qui sont incarnées par des leaders bien préparés. Bon, je crois à cela. Et je crois qu'à l'intérieur de ces organisations politiques, le débat doit avoir lieu. Et avec ceux qui n'appartenant pas à ces organisations politiques, appartiennent aux forces du travail, de la création, au milieu culturel, artistique, syndicaux. Et tout cela, c'est une longue route. Et il n'est pas inutile, lorsqu'on a la passion de la nation et la passion du pays, de regarder aussi ce que fut son histoire, ce que furent ses grands leaders, pour comprendre que ceux qui ont le plus marqué leur époque en transformant le plus leur pays, parce qu'ils avaient l'amour de leur pays, se sont inscrits dans cette longue marche. Donc ça, c'est ma première réponse.
Justement, la place deuxième réponse, de gauche, ces grandes figures-là,
je termine deux secondes. Deuxième sujet, comme démocrate, j'estime que Ce qui fait la force de la démocratie, c'est le libre arbitre et la possibilité pour chacun d'émettre souverainement son choix. Et c'est la sincérité du scrutin qui permet à un moment donné de faire en sorte que tous ces principes trouvent leur synthèse. Et qu'il puisse y avoir un scrutin organisé pour déterminer qui doit porter les espoirs d'une sensibilité ou d'un camp, en choisissant entre des candidats qui non seulement ne se sont pas déclarés, mais sont défavorables au processus de désignation et pour le moins singulier. On a le droit d'adhérer à ce processus, on a le droit de ne pas y adhérer. On a le droit de vouloir y participer et on a le droit de ne pas vouloir y participer. Et dès lors qu'on a fait le choix de ne pas y participer parce qu'on considère que la politique doit se décliner autrement, on n'a pas à se trouver contraint d'être soumis à ce vote et d'être candidat, parce que ça, c'est le contraire de la démocratie, de la liberté de chacun, de son choix, de sa volonté, de l'expression de son orientation politique. Donc, c'est très singulier. On ne peut pas trouver un sursaut démocratique, une respiration démocratique à travers un dispositif qui commence par une forme de contrainte à l'égard de ceux qui, à tort ou à raison, je ne me prononce pas sur le fait de savoir s'ils ont raison ou pas de vouloir s'engager dans cette primaire, mais ont refusé d'y participer. Donc, tout ça traduit quoi ? Tout ça traduit une immense confusion, une forme d'affaiblissement auquel il faudra bien mettre fin si toutefois on est de gauche, qu'on considère que la gauche ne peut renaître que d'une crédibilité, d'une capacité de rassemblement, et que cette crédibilité, cette capacité de rassemblement doivent rencontrer à un moment donné le principe de sérieux et de responsabilité. C'est ma position. Je conviens que ça peut apparaître à bien des auditeurs comme infiniment plus triste que ce que nous promet le reportage qui vient d'être diffusé. Mais c'est ma position. Et comme j'ai peu l'occasion de dire ce que j'ai à dire, je tiens à l'exprimer devant vous avec la plus grande clarté. Parce que je considère que le respect des citoyens et la démocratie ont quelque chose à voir à un moment donné avec le sérieux.
Ils ont raison, les candidats de gauche, de ne pas s'unir.
Mais il n'y a pas de possibilité de s'unir si vous n'avez pas une force, si vous n'avez pas un projet, et si vous n'avez pas à un moment donné autour de cette force, de ce projet et de son incarnation, une énergie qui, à un moment donné, permet de faire mouvement. C'est ce qui semble avoir été oublié, et je regrette que cela ait été perdu de vue.
En attendant 2022, il y a le sentiment qu'il y a une droitisation du pays. En tout cas, c'est ce que tous les sondages nous prédisent. Vous vous dites que ça n'est absolument pas inéluctable, cette droitisation de la société.
Je pense même que la droitisation est d'autant plus visible que la gauche s'étiole et se dissout. La droitisation n'existe que pour autant que la gauche a perdu une partie de sa crédibilité. Donc moi, je souhaite que la gauche soit crédible, qu'elle soit forte, qu'elle soit responsable, qu'elle soit républicaine et qu'elle n'oublie pas d'ailleurs d'être ardemment républicaine, parce que plus elle incarnera les valeurs de la République, moins elle laissera à l'extrême droite et à la droite, à une certaine droite, pas toute la droite, la possibilité de préempter ces thèmes en les dénaturant, en les abîmant, en les abaissant.
Mais ce ne sera peut-être pas pour 2022. Rendez-vous en 2027 ?
C'est loin, 2027, vous savez. Vous savez, y a pas, François Mitterrand avait une très bonne formule. Il disait, il n'y a pas de long terme là où il n'y a pas de court terme. Donc tous ceux qui regardent 2027 en essayant de ne pas développer tous les efforts qu'ils doivent développer pour faire en sorte qu'en 2022, tout ne s'effondre pas, font une grave erreur. Parce qu'en politique, il n'y a pas de long terme là où il n'y a pas de court terme.
Vous direz quel sera votre choix pour le premier tour de la présidentielle, ou vous comptez disparaître d'ici au 10 avril ?
Non, mais mon choix, il est connu. Moi, je suis socialiste. J'ai été au meeting de Lille. Je voterai pour Anne Hidalgo. Vous savez, moi, quand les moments sont difficiles, oui, quand les périodes sont compliquées, quand mon parti est à la peine, je ne lâche pas mon organisation politique. Il y a des acteurs politiques qui changent de famille en fonction de ce qu'est leur intérêt ou leur avantage. Moi, je ne fais pas ça. J'ai une fidélité, une loyauté. Ça ne veut pas dire qu'avec Hidalgo, je ne puisse pas avoir des discussions sur certains aspects de son programme, sur certains choix qu'elle a pu opérer. Et ça, c'est notre relation et c'est ma franchise. Mais je suis socialiste.
Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec Mohamed Bouabsi.
Bonsoir, Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir.
Vous évoquez avec nous un mystère, une énigme.
c'est l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Un détective du FBI à la retraite a enquêté pendant 6 ans et pense avoir retrouvé celui qui a mené la famille Frank à la déportation en 1944. L'enquêteur a étudié des millions de documents et d'archives.
They're using artificial intelligence, building a first-of-its-kind database of millions of documents spread across archives in Israel, Germany, Belgium, the Netherlands, Britain, and the U.S., asking the computer to connect the dots. Already, it's given them this map. Anne Frank's hiding place is in blue. Every other dot is a Nazi sympathizer. The investigation is still in the early stages. The team not looking for a prosecution, just answers.
L'adolescente, connue dans le monde entier depuis la publication de son journal intime rédigé entre 1942 et 1944, était cachée avec sa famille. Arrêtée en 1944, elle décède l'année suivante dans le camp de Bergen-Belsen. Son journal intime a été lu par près de 30 millions de personnes, mais personne n'a jamais su qui était le responsable du raid qui a révélé l'annexe où se cachait la jeune fille. Vincent Pancock du FBI nous explique comment il a mené l'enquête.
We had to come up with a new blueprint using tried and true cold case methodology, but we had to create a new blueprint for the investigation because it was almost 75 years old at that point. We formed a multidisciplinary team of researchers, historians, archivists, and then, you know, utilizing modern police technology, forensic investigation of the note, behavioral science, and also something as that we take for granted today, the internet.
Dans les radars de l'équipe d'enquêteurs, un nom, celui d'un notaire juif Vandenberg, décédé en 1950, membre fondateur du Conseil juif, organe administratif que les nazis ont utilisé afin d'obtenir et d'organiser les déportations. Ce notable aurait trahi les Francs pour éviter sa propre déportation ainsi que celle de sa famille. Donner une réponse à ce mystère, c'est l'un des objectifs de vie du réalisateur du documentaire.
I suspect when this is revealed, people around the world are going to be uncomfortable with the idea that a Jew betrayed another Jew.
I hope so.
You hope they will be?
Yes, because it shows you how bizarre the Nazi regime really operated and how they brought people to do these terrible things. The real question is, what would I have done? That's the real question.
Les révélations autour de cette affaire provoquent d'autres questions pour la direction du musée Anne Frank qui demande aujourd'hui une enquête approfondie.
La direction du musée de la maison d'Anne Frank a déclaré que le résultat des investigations menait à une hypothèse fascinante, mais nécessitait une enquête plus approfondie. Ce que cette nouvelle théorie nous apporte, ce n'est pas seulement des informations sur ce qu'il s'est passé ici à l'époque, mais plutôt par rapport au comportement des gens, aux choix qu'ils ont faits et aux décisions prises pendant cette période très difficile.
Bonsoir Yannis Schroeder, professeur d'histoire-géographie, responsable de la formation au mémorial de la Shoah. Votre première réaction en apprenant ces révélations, c'est d'appeler à la prudence?
Oui, d'abord c'est d'appeler à la prudence parce que voilà, on n'a pas encore lu le livre, on n'y a pas encore eu accès. Il y a eu beaucoup d'hypothèses hein, sur l'arrestation de la famille Frank, sur une éventuelle dénonciation. Je dis éventuelle parce qu'on n'est pas sûr non plus qu'elle ait, cette famille ait été dénoncée. Donc une prudence dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, un questionnement. Voilà, du point de vue de l'historien que je suis, est-ce que c'est vraiment un sujet en fait? Voilà, c'est de mon point de vue et du point de vue de l'historien,
c'est pas vraiment
un sujet.
On n'a pas besoin de savoir. Et le risque, c'est d'oublier qui sont les véritables responsables du destin tragique d'Anne Frank et de sa famille.
Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de savoir, mais j'observe depuis hier soir un tapage absolument phénoménal au regard du poids historique, en termes d'histoire, de cet événement, en fait. Ça me semble totalement démesuré. Alors, c'est démesuré parce que c'est Anne Frank. Et votre chroniqueur a rappelé que près de 30 millions de livres ont été vendus. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des films, il y a même eu un manga japonais. Bon, bref. Mais au-delà de cela, je pense que ça n'apporte en fait rien à l'histoire, à la grande histoire. Ça ne permet pas de comprendre les processus, ça ne permet pas de comprendre ce qui était à l'œuvre et les enjeux. En revanche, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut faire très attention, me semble-t-il. On peut avoir tendance, et certains peuvent se servir de cette histoire, pour déplacer la culpabilité des nazis aux Juifs, en fait, en disant, regardez, finalement, ils ont participé eux-mêmes à leur massacre, au crime des nazis. Et c'est une manière, peut-être, pour certains, de se déculpabiliser aussi, de manière peut-être inconsciente, hein, mais de se déculpabiliser. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce livre est un livre hollandais. Il y avait 160 000 juifs aux Pays-Bas en 1940. 80% ont été assassinés pendant la Shoah. Et ces 80% assassinés pendant la Shoah, c'est le plus gros pourcentage après la Pologne, hein, l'ont été aussi avec une très grande collaboration des services de police et de l'administration hollandaise.
La base, j'imagine que ça vous a frappé, parce qu'effectivement, on n'a pas le livre, mais on a eu des extraits. La base qui permet à cet ex-enquêteur du FBI d'accuser ce juif d'avoir dénoncé Anne Frank, c'est une lettre anonyme.
Oui.
Vous avez vu cela, c'est une lettre anonyme adressée au père d'Anne Frank.
Oui, tout à fait.
Enfin, quand on connaît la valeur et le rôle des lettres anonymes sous l'occupation...
Mais c'est-à-dire que, je n'ai pas encore eu le livre, ça me semble bien maigre en termes de sources historiques utilisables. Effectivement, il y a cette lettre anonyme que Otto Frank avait gardée, hein, d'ailleurs, hein, le père d'Anne Frank, et qu'il n'avait pas divulguée, enfin, qu'il n'a pas divulguée tout de suite. Mais est-ce que ça suffit? Alors, j'ai vu que, bon, ils ont utilisé la 3D, l'intelligence artificielle, etc. Bon, tout cela me semble... faire beaucoup, beaucoup de bruit pour, en réalité, pas grand-chose.
– Et pour rebondir sur ce que disait Patrick, Otto Frank aurait pu, finalement, en utilisant ce document, dénoncer l'action ou demander qu'on enquête un peu plus avant, il ne l'a pas voulu. Est-ce que ce peut être parce qu'il ne pensait inconcevable qu'un juif ait dénoncé sa fille juive ?–
Je ne sais pas, mais vous savez, ce n'est pas une question nouvelle, en fait, même dans l'historiographie. Dès les années 50, en Israël, la question se posait de savoir si les conseils juifs qui avaient été mis en place par les nazis, parce que ce sont les nazis qui ont mis ces choses en place et qui ont poussé des gens dans des situations absolument abominables, à faire des choix absolument terribles. Dès les années 50, il y a une discussion sur les conseils juifs. Sont-ils des collaborateurs des nazis ou ont-ils essayé de limiter la casse? Voilà, ce sont des vieux débats, en réalité. Et on sait très bien que dans les ghettos, des gens ont balancé d'autres personnes, mais juste pour survivre. Qui peut se permettre aujourd'hui, qui pourrait se permettre de porter un jugement moral sur une situation absolument abominable?
Un mot sur Anne Frank, Émilie.
Oui, le fait que ce soit aussi qu'une enfant, vous lisiez un peu que son discours demeure positif malgré tout, innocent, avec des détails sur sa vie de famille. En lisant son journal, on s'est surtout tous mis à sa place. Est-ce que c'est son journal qui est l'un des meilleurs livres d'histoire, un meilleur récit d'histoire finalement?
Alors, je ne sais pas si c'est un des meilleurs récits d'histoire. C'est un récit qui frappe, parce qu'effectivement, quand on lit Anne Frank, on est tous, garçons ou filles d'ailleurs, tentés de se mettre à sa place et de s'imaginer ces 2 ans dans ce réduit, comment moi j'aurais vécu à sa place. Et puis on sent l'éveil de l'adolescente, on sent cette innocence, cette capacité aussi extraordinaire qu'elle a à réfléchir, à penser, à écrire. On s'est tous mis à sa place. Donc c'est un évidemment grand livre. D'ailleurs, ça a été classé, je crois, numéro 19 des 100 livres, les plus grands livres du XXe siècle par les Français. Vous voyez, donc c'est pas un hasard.
Ça, elle est devenue un symbole.
Elle est évidemment un symbole. C'est le symbole de cette innocence dont vous parliez face à la barbarie nazie. Il ne faut pas oublier, d'abord, je le répète, je me permets de le répéter, que les responsables de cela, ce sont les nazis, et seulement les nazis. Et la deuxième chose, c'est qu'ils s'en sont pris là, mais comme partout ailleurs, ils ont assassiné 1,5 million d'enfants juifs. Ils s'en sont pris là au symbole de l'innocence, en fait. C'est la barbarie contre l'innocence.
Bernard Cazeneuve, une réaction?
Non, je pense que ce qui vient d'être dit est exactement ce que j'éprouve à chaque fois qu'on évoque ces questions de façon très, très profonde. C'est le combat entre la barbarie et l'innocence et la monstruosité de ce que la barbarie a pu construire de comportements, de processus pour aboutir à l'élimination de tout un peuple. Et par ailleurs, ce débat que nous avons renvoie à ce que sont les faits de l'histoire. Hein, sur le sujet dont on parle à l'instant, il y a eu des débats au cours des dernières semaines sur des régimes qu'on a eu tort de mettre au banc de l'histoire au motif qu'ils auraient protégé des Français juifs en livrant...
Le maréchal Pétain qui aurait sauvé des Juifs français.
Bon, exactement.
Donc, Éric Zemmour doit être jugé en appel
Je veux dire à ce sujet, c'est que la seule chose qu'il faut retenir... Et le regard très clair de Simone Veil nous le rappelait en permanence, qui portait en lui toute cette souffrance accumulée avec cette immense pudeur, cette grande dignité, cette retenue constante. La monstruosité était là pendant cinq ans avec cette barbarie abjecte et cette volonté d'exterminer tout un peuple et de le faire avec vraiment une cruauté, une monstruosité convoquée à chaque instant. C'est la seule chose qu'il faut retenir.
Jeudi, ce procès en appel pour contestation de crimes contre l'humanité, c'est le fait que Éric Zemmour avait affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français.
Oui, les historiens, aujourd'hui, les plus sérieux, nous disent tous que jamais le maréchal Pétain n'a sauvé les Juifs français. Ce qui s'est passé, c'est que le maréchal Pétain et le régime de Vichy ont eu l'opportunité de se débarrasser, et j'emploie à dessein ce terme, des Juifs étrangers. Dans un premier temps, il ne s'agit pas de sauver les Juifs français, il s'agit de se débarrasser des Juifs
d'abord.
Étrangers. D'abord.
Merci beaucoup Yannis Schroeder d'être venu ce soir. Je rappelle votre ouvrage « Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse ». C'est sorti chez Odile Jacob en 2020. Merci de votre présence. Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir. Mathieu, Jean-Michel Blanquer empêtré dans une polémique sur ses vacances.
Oui, Mediapart révélait tard hier soir que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le protocole sanitaire pour l'école depuis Ibiza. Une information qui ne passe pas quand on sait les couacs de la rentrée. Alors dès ce matin, dans les matinales et à l'Assemblée plus tard, indignation, appel à la démission. C'était feu sur le ministre.
C'est une faute. Il devrait rendre service à l'école et démissionner, je le dis clairement.
Depuis 5 ans, on vit avec le mépris. Et ce mépris, cette coupure, aboutit à des décisions inefficaces. Ils sont non seulement méprisants et en plus incompétents.
C'est pas la première fois, je demande la démission de Jean-Michel Blanquer.
Cette désinvolture, elle dit quelque chose. Démontre d'abord une forme de désintérêt pour ce que vivent les Français.
Bien sûr que c'est choquant et ça va attiser encore plus de colère dans le monde enseignant quand ici les Français, ils n'ont pas de quoi se payer des vacances. Et il y en a d'autres qui sont en vacances à Ibiza et incapables de mettre en place un protocole sanitaire dans les écoles.
Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, nous ne perdons pas dans l'accessoire.
Le protocole sanitaire de rentrée, on l'a connu le dimanche 2 janvier, au soir, via un article payant du Parisien. Timing et manière qui avaient déjà mis la communauté éducative en colère. Dans le détail, Jean-Michel Blanquer était donc en vacances à Ibiza au moment où il répondait aux questions des journalistes du Parisien. Le 1er janvier, samedi, la veille, et contrairement à ce que la photo qui illustre l'article laisse penser, Jean-Michel Blanquer n'est donc pas dans son bureau, mais au téléphone et au Parisien, on a dû s'expliquer. On se défend en tout cas d'avoir couvert le ministre.
Le journaliste qui l'a réalisé savait où le ministre se trouvait.
Absolument pas. Ils ont, comme moi d'ailleurs, découvert cette destination de vacances hier soir en lisant le papier de Mediapart. C'est un usage très classique. Lorsque vous n'avez pas pu réaliser l'interview physiquement avec la personnalité politique, vous utilisez l'une des photos d'archives dont nous disposons grâce au service photo du Parisien. On prend la plus récente et on la met pour illustrer l'interview. Tous les journaux fonctionnent comme ça.
Le ministre est donc en pleine polémique. On apprend aussi qu'il s'est marié le week-end dernier en petit comité. Jean-Michel Blanquer, déjà accusé de dilettantisme, déjà fragilisé au sein même du gouvernement, alors qu'on attend une deuxième mobilisation ce jeudi.
C'est une marque de mépris supplémentaire. Ça fait 5 ans, je pense, qu'on assiste à une destruction programmée de l'école publique avec un grand discrédit pour notre travail dans les médias. Et en fait, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ce symbole est assez terrible parce que finalement, il symbolise toute la légèreté de Jean-Michel Blanquer dans la gestion de cette crise sanitaire. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup.
Ça relève de l'indécence et de la provocation. Hein. Tout simplement, on considère que le ministre est largement discrédité et qu'il faut qu'il parte aujourd'hui.
Soyons précis, hein, Ibiza, c'est assez près pour rentrer rapidement à Paris, un tout petit peu plus de 2 heures si nécessaire. Rien d'illégal dans ce choix, mais en termes d'image, on a vu mieux. C'est une polémique qui rappelle en tout cas d'autres débats sur les ministres et leur temps libre. Alors, vous allez revoir le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, en pleine canicule meurtrière de 2003, Christophe Castaner en boîte de nuit en plein mouvement des Gilets jaunes et Elisabeth Borne à Marrakech pendant la mobilisation contre la réforme des retraites.
Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. Dès demain midi, un numéro vert sera joignable pour donner toutes les mesures de prévention pour éviter la chaleur, l'ensoleillement.
Et vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4, 24 heures sur 24. Mais cela ne m'empêche pas de répondre à une invitation à un anniversaire dans un restaurant et de pouvoir m'y rendre librement.
Un certain nombre de commentateurs ont jugé que ce sujet était passionnant.
Moi, je suis convaincu que savoir comment j'ai passé Noël avec mes proches passionne pas les Français. Ce qui leur importe, c'est qu'on soit tous mobilisés pour eux, et c'est bien le cas.
Alors même si depuis 2020, Covid oblige, il faut le préciser aussi, hein, les boîtes de nuit qui font la notoriété d'Ibiza sont fermées. C'est une polémique qui a inspiré les internautes ce matin. Alors on a parlé de la photo déjà, et avec la pandémie, on a appris à changer le fond derrière nous pour les réunions de télétravail. Alors regardez, aujourd'hui on peut très simplement cacher la plage si on le veut et la remplacer par un joli bureau. Il y a cette photo à présent où l'on reconnaît le DJ David Guetta et la légende qui précise « rare photo du conseil scientifique de Jean-Michel à Ibiza avant la rentrée » ou encore ce tweet en boîte de nuit. Là je cite « Tu vois le gars derrière toi, c'est le ministre de l'Éducation. Fait une soirée protocole, tu peux te servir sur sa bouteille. » Alors pour l'humour version professionnelle, je vous invite à rester avec nous jusqu'à l'arrivée de Bertrand Chameroy dans moins d'une heure. Mais pour revenir au sérieux, Bernard Cazeneuve, vous, Premier ministre, vous auriez laissé le ministre de l'Éducation à Ibiza? Fausse polémique ou vrai scandale?
Je ne vais pas alimenter. Écoutez, là aussi, je vais vous répondre très clairement et très directement et sans précaution. Moi, je n'aime pas les phénomènes de meute. Quand une personnalité, en une journée, est attaquée par la plupart de la classe politique et journalistique, par tempérament d'avocat, je n'en rajoute pas. Premier point. Et c'est un trait de la période que d'agir comme ça, systématiquement, lorsqu'on a la possibilité, lorsqu'une flamèche est allumée, d'en faire un incendie portant atteinte à la réputation des gens, à leur intégrité, on le fait volontiers.
Oui, il arrive que les responsables aient commis des fautes.
Je vais aller au bout du raisonnement. Oui. Donc, ne comptez pas sur moi pour le faire, même si je sais très bien qu'en prenant la position que je prends à votre antenne, je vais me faire, parmi vos auditeurs, énormément d'ennemis. Et c'est ainsi que je pense. Je n'aime pas ces phénomènes de meute et je n'y participe jamais, surtout lorsqu'ils deviennent massifs. Premier point. Deuxième point, ça n'interdit pas de dire ce que l'on a à dire sur la politique menée par le gouvernement et Jean-Michel Blanquer, sur la relation qu'il peut y avoir avec les organisations syndicales, ce qui a été fait sur ces protocoles sanitaires, le sentiment de confusion que ça a engendré, les difficultés auxquelles les enseignants ont été confrontés, le désaccord puissant que je peux avoir avec certaines positions prises par le président de la République concernant l'université. Tout ça, autant que vous voulez, sont des désaccords politiques. Et ces désaccords politiques doivent être exprimés clairement, et je ne suis pas favorable à la manière dont le ministre a pu conduire les discussions avec les organisations syndicales et mener les discussions concernant le protocole sanitaire. C'est là le plus important. Pour le reste, il y a suffisamment de commentateurs qui y vont de leurs propos pour que j'en en rajoute pas. Je déteste les phénomènes de meute.
Pas besoin de transition, on traverse la Manche et c'est Boris Johnson qui est en pleine tempête politique.
Et là, on a d'autres meutes, vous allez l'entendre. Alors si les boîtes de nuit sont fermées à Ibiza, ce n'est pas forcément le cas de la boîte de nuit du moment à Londres, le 10 Downing Street, résidence du Premier ministre britannique, lieu d'intérêt aussi, bien sûr, sur le site de tourisme TripAdvisor. Mais sur le site, on trouve des commentaires comme celui-ci. Une des meilleures boîtes secrètes de Londres. Ils disent d'emmener sa bouteille, mais ne vous inquiétez pas, il y a du fromage et du vin. Ou cet autre message amusé. La meilleure et la seule fête de Londres. Des commentaires humoristiques, bien sûr, mais qui font suite aux diverses polémiques sur des fêtes clandestines organisées malgré la pandémie. Alors, on vous a raconté le pot de Noël 2020 qui avait coûté son poste à la porte-parole du gouvernement. On vous a raconté la garden party printanière en plein confinement. Aujourd'hui, Boris Johnson s'excuse à nouveau.
Categorically, that nobody told me, and nobody said that this was something that was against the rules. My memory of this event, as I've said, is going out into the garden for about 25 minutes for what I implicitly thought was a work event. You know, I do humbly apologize to people for misjudgments that were made.
Alors on voit là maintenant une liste de fêtes et de dates et de lieux du mois de mai 2020 à avril 2021, des événements cités par les journalistes anglais, les jardins et l'intérieur de la résidence des bureaux du Premier ministre, les ministères des Transports et de l'Éducation, et même une fête au sous-sol de Downing Street le 16 avril. Le 16 avril, veille des funérailles du prince Philippe, les médias britanniques se souviennent que la reine elle-même avait dû rester seule, isolée, au moment de l'enterrement de son mari. On retrouve en ce moment cette photo touchante de la reine en noir. Alors l'effet est dévastateur sur l'opinion. Vous allez voir que les excuses de Boris Johnson, ça ne suffit pas aux députés britanniques.
Will the Prime Minister, for the good of the country, accept that the party is over and decide to resign? Yeah. Is he now going to do the decent thing and resign?
Yeah! Do the decent thing and resign.
or will his Tory MPs be forced to show him the door?
Il y a la polémique et le sérieux qu'elle implique. Il y a aussi ceux qui arrivent à s'amuser de cette affaire, comme ce flash mob devant le 10 Downing Street, une mobilisation éclair de faux fêtards, très bien déguisés en Boris Johnson. Des déguisements de Boris Johnson. Sur la vidéo suivante, alors là, c'est le vrai Boris Johnson qui danse. C'est ainsi qu'on l'imagine rompre le confinement. Je vous la montre parce qu'elle est devenue complètement virale en Angleterre. Mais je me dois de préciser que la vidéo est antérieure à la crise sanitaire. Il n'était même pas Premier ministre. Ça, nous pouvons le préciser. En revanche, je suis incapable de vous dire pourquoi cette dame manipule un sabre laser.
La fameuse piste de danse qu'évoquait Bernard Cazeneuve tout à l'heure. La conférence des évêques de France veut éclairer les catholiques avant la présidentielle.
Oui, une déclaration aujourd'hui, un texte d'une soixantaine de pages, des réflexions sans consigne de vote. L'espérance ne déçoit pas. C'est le titre de ce texte, je cite, de réflexion et de discernement, dans lequel on lit les politiques doivent se garder de promettre plus qu'ils ne sont en mesure d'offrir. Ça, c'est pour méditer. Mais les religieux reviennent sur l'état de fracturation de la société, et Camille Schmitt a rencontré Mgr Mathieu Rouget aujourd'hui, l'évêque de Nanterre, qui nous explique leur démarche.
Je crois que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un débat électoral qui se limiterait à des polémiques parfois violentes sur des petits mots ou des sujets secondaires. Il s'agit d'entrer dans les questions de fond. Nous insistons sur le respect inconditionnel de la vie humaine, la vie naissante, la vie finissante. Il y aura peut-être un débat sur l'euthanasie dans les semaines qui viennent. Nous insistons aussi sur l'écologie. Et puis nous insistons aussi sur les questions de construction européenne et de paix internationale. Pour nous chrétiens, c'est très important. Chacun, nous sommes dans l'humanité tout entière et nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'humanité tout entière.
Alors encore une fois, pas de consigne de vote dans ce texte, mais des orientations et des rappels de ce qui compte pour l'Église catholique, ça vous l'avez compris. Nous avons aussi sondé des chrétiens français à l'approche de la présidentielle. Est-ce que leur foi pèse sur leur choix ?
Je ne demande pas à l'Église de me donner son avis. Ça, c'est moi.
Je ne partage pas toutes les convictions de l'Église catholique. J'ai mes propres convictions. Et en tant que femme, le droit à l'avortement, c'est essentiel.
Ma foi, en gros, c'est un peu comme mon ADN. C'est la manière dont je pense.
L'État et la religion sont séparés. Ma religion n'influence pas du tout sur mes idées politiques.
Je suis chrétien, donc je mets une place prépondérante à la vérité, à l'amour, des genres de valeurs comme ça, qui sont indispensables pour moi et qui vont influencer nécessairement ma manière de voter.
Pour moi, la partie chrétienne est complètement décorrélée de la partie citoyenne.
Ah ouais ? Alors, contre l'abstention, ouais. Je le précise aussi, les évêques soulignent que c'est un devoir pour les catholiques que de voter, même si c'est un vote blanc.
Vous trouvez ça intéressant que l'Église catholique appelle à voter contre l'abstention ?
Bah, je trouve que tout ce qui peut permettre dans la société de faire en sorte que les citoyens exercent leurs responsabilités, leurs droits est bienvenue. Je suis très attaché à la séparation de l'Église et de l'État. Et je ne souhaite pas que ceux qui sont dans la sphère religieuse interviennent trop sur les questions politiques. Et je souhaite même qu'ils n'interviennent pas du tout sur les questions politiques. Mais lorsque parfois les circonstances le justifient, ça a été le cas pendant les attentats, la parole des représentants des cultes a été une parole apaisante, elle a été fort utile. Donc je considère que lorsqu'on est dans un culte et qu'on a une parole qui porte sur des sujets essentiels, on peut contribuer à l'apaisement de la société. Et par exemple, je le raconte dans le livre, au moment de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'Église catholique a été absolument remarquable par la parole portée par les évêques.
Le sens de notre nation, entretien avec François Bazin, le troisième volet des souvenirs de Bernard Cazeneuve, qui soutiendra donc Anne Hidalgo au premier tour pour cette élection 2022. Anne Hidalgo créditée de 3% des sondages. C'est au niveau de Fabien Roussel. Merci beaucoup Yanis Roudard d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous.
C'est une drôle de conclusion.
Je remplis des chiffres pour conclure. Dans un instant, Soprano est notre invité. Il cartonne avec son dernier album, Le Chasseur d'étoiles. A tout de suite.